Le vrai visage de Sainte Thérèse de Lisieux. Voici une conférence de Mgr Guy Gaucher qui a été évêque auxiliaire de Bayeux-Lisieux. Il est décédé en 2014. Le vrai visage de Thérèse de Lisieux, Mgr Guy Gaucher.
Il est vrai que le vrai visage de Thérèse, le Carmel et le Père François de Sainte-Marie nous l'ont donné en 1961 avec l'album des photos authentiques de Thérèse. Mais ce beau travail nous laisse encore sur notre faim, parce que vous savez qu'à l'époque, avec l'appareil de Céline, il fallait poser 8 à 9 secondes, et donc Thérèse était contractée, et sur 47 photos qu'on a d'elle, on n'a pratiquement pas son sourire, qui était un beau sourire. Il aurait fallu que les Carmélites aient des caméras, qu'on puisse la filmer, mais ça nous ne l'avons pas. Déjà heureux que nous ayons Thérèse en photo, non retouchée. Mais le vrai visage au sens de la vraie personnalité, ça c'est une entreprise encore plus difficile. Qui peut prétendre connaître quelqu'un vraiment en profondeur, même quelqu'un de très proche? Et Thérèse écrit à un de ses frères spirituels, l'abbé Bélière, le 25 avril 1897, c'est-à-dire 6 mois avant de mourir, « Vous ne me connaissez pas tel que je suis en réalité. » Mais je crois que cette phrase, elle aurait pu peut-être la dire à ses sœurs, ses sœurs carmélites, et peut-être même à Mère Agnès et à Céline. Car d'une certaine manière, Thérèse a été incomprise tout au long de sa vie. Et elle savait aussi que c'est le sort des saints qui est d'entrer dans la légende sous forme de statues, de vitrailles, et que ce n'est pas forcément une manière de les bien connaître. Elle disait à sa sœur Céline, si les saints revenaient nous dire leurs pensées sur ce que l'on a écrit d'eux, on serait bien surpris. Sans doute avoueraient-ils souvent qu'ils ne se reconnaissent pas dans le portrait que l'on a tracé de leur âme. Donc on est averti. Il est vrai que depuis 84 ans, on scrute la personnalité de Thérèse, qui est mystérieuse. Et ce n'est pas fini. Je crois même, au contraire, que ça ne fait que commencer. Je crois que ça ne finira plus. Seulement, de plus en plus, on essaie de revenir à elle-même, par-delà toutes les interprétations de son entourage, les exégèses multiples de tous ceux qui nous ont précédés. Il est tout à fait normal que chacun ait son point de vue, parce que Thérèse Martin, désormais, appartient à l'Église universelle, et même elle appartient à tout homme de bonne volonté qui veut la connaître. Mais si l'objectivité pure est impossible, nous pouvons au moins essayer de rechercher son vrai visage, sa véritable personnalité, en l'écoutant elle-même, non pas en dehors de son contexte, mais en la prenant telle que nous l'avons maintenant, c'est-à-dire depuis l'apparition des manuscrits autobiographiques, qui est l'histoire d'une âme dans sa teneur primitive, qui nous a été donnée par le Père François en 1956, l'élan a été donné de publier, de connaître Thérèse intégralement, dans tout ce qu'elle nous a laissé, tout ce qu'elle a écrit. Il est évident que l'écriture n'est pas tout, mais que c'est l'expression privilégiée pour l'histoire. Elle nous a laissé des lettres, en plus des manuscrits, des 2 cahiers, des lettres, des poésies, des récréations. Et puis, il y a aussi des témoins qui ont entendu ce qu'elle a dit, donc nous avons des paroles de Thérèse. Et les derniers entretiens, pris en note pendant ces 6 derniers mois, les procès de l'ordinaire et apostolique, des témoins qui ont vécu avec elle, les souvenirs de ses novices, les correspondances familiales et tous les documents qui sont encore énormes, mais qui sont encore certains à mettre en valeur, qui n'ont pas été publiés, surtout l'entourage de Thérèse. C'est le travail de l'édition du centenaire, qui a commencé avec les manuscrits autobiographiques, et surtout à partir de 1972, et qui n'est pas encore terminé. Il aura fallu, enfin, avec l'apparition des récréations, ça fera environ 85 ans, après la mort de Thérèse, pour qu'on ait ses véritables écrits. Alors souvent on s'étonne, pourquoi cette minutie, pourquoi ces scrupules de l'édition? Eh bien justement, nous essayons de retrouver, à travers ces textes, la vraie Thérèse, autant que c'est possible, non revue et corrigée par ses sœurs, non revue et corrigée par les intermédiaires, et ses sœurs, évidemment, enfin son entourage, y compris les gens de Lisieux, qui évidemment ne se doutaient pas qu'il vivait avec la plus grande sainte des temps modernes. Vous connaissez l'anecdote de ce vicaire de Paris, d'une paroisse de Paris, recevant un certain Jean Bosco, et lui donnant la chambre la plus perdue dans les combles du presbytère. Et évidemment, il disait, mais si j'avais su que c'était Saint Jean Bosco, je lui aurais donné la plus belle chambre. Nous ne savons pas avec qui nous vivons. Thérèse disait, je ne puis me nourrir que de la vérité. Alors, qu'est-ce que la vérité? Nous essayons de l'approcher, de reconstituer le vrai de sa vie. Comment cela s'est passé? Et ceci est important parce que ça peut nous éviter parfois des contresens qui sont assez graves parce qu'ils portent aussi, en définitive, sur la relation de Thérèse avec Dieu. Et peut-être même sur la manière dont nous percevons Dieu. Et nous risquons d'atteindre le visage même de Dieu en faisant des contresens. Je donne qu'un seul exemple. Thérèse écrivait des poésies et sa réputation, si on peut dire, de poète ou de versificatrice avait atteint le Carmel de Paris, à Messine, et une ancienne prieure, Mère Henriette, dit « Oh, mais peut-être que cette petite sœur fait des belles poésies, mais moi j'aimerais bien vérifier. » Alors elle commande une poésie à Thérèse, et Thérèse écrit « La rose effeuillée », qui est un de ses poèmes les plus célèbres. 19 mai 1897. Là aussi, quelques temps avant de mourir. Alors, Thérèse dit que sa vie est une rose, elle effeuille pour Jésus, et qu'elle donne sa vie à Jésus. Je résume. Mère Henriette lit ceci et dit, c'est très joli, mais il manque une strophe. Il manque une strophe. Il aurait fallu finir en disant, Jésus ramasse ses pétales, il en refait une belle rose, et au ciel, elle brillera toute, pendant l'éternité. Voici ce que répond Thérèse. Que la bonne mère fasse elle-même ce couplet, comme elle l'entend. Pour moi, je ne suis pas du tout inspiré pour le faire. Mon désir est d'être effeuillé à tout jamais pour réjouir le bon Dieu. Un point, c'est tout. Eh bien, publier cette note à propos de cette poésie, c'est tout à fait capital. Car il y va même de toute la spiritualité de Thérèse, qui, lorsqu'elle se donne à Jésus, ce n'est pas pour être récupérée, si je puis dire, ou se trouver elle-même, c'est pour se donner totalement. Et ceci, c'est tout à fait essentiel pour elle. Alors, si j'avais 20 ans, mais c'est passé, si j'avais 20 ans, c'est-à-dire si je ne bénéficiais pas quand même de tout ce que nous pouvons encore entendre aujourd'hui, c'est-à-dire les générations qui nous ont précédés, et qui font que pour nous, Thérèse, enfin les plus anciens, est encore très proche, puisque j'ai encore connu, enfin, ici il y a des gens qui pourront en connu bien plus que moi, mais j'ai encore connu quelqu'un ici à Lisieux qui avait vu Thérèse, donc j'avais juste une intermédiaire entre elle et moi. Et si j'avais 20 ans, je me poserais la question, qu'est-ce qui fait courir les gens à Lisieux? Qu'est-ce qui fait que du monde entier, on vient chez vous? Qu'est-ce qui fait qu'environ 1,5 million de touristes passent par ici? Qu'est-ce qui a fait que Benoît XV, Pie X, Pie XI, Pie XII, Jean XXIII, Jean-Paul Ier ont tous aimé cette carmélite? Qu'est-ce qui fait que Jean-Paul II est venu ici l'année dernière pour terminer son voyage en France? Évidemment, chacun a ses raisons, mais pour ma part, si j'essaie de répondre à cela, ce qui me fascine, c'est de mettre en parallèle la vie de Thérèse telle que nous pouvons la suivre chronologiquement de très près, et même des fois jour par jour, et sa vie posthume, c'est-à-dire cet ouragan de gloire qui a déferlé sur le monde après sa mort, et qui a ébranlé votre ville, puisque si Lisieux est connue, c'est quand même à cause d'elle, à travers le monde. Il semble qu'il n'y ait pas de commune mesure entre cette vie si simple, une petite fille d'Alençon, nommée Martin, c'est un nom très commun, qui déménage à Lisieux, qui vit 11 ans au Buissonnet, qui entre à 15 ans au Carmel, c'est à peu près le seul fait notable, parce que ce n'est pas très courant, qui vit 9 ans de vie religieuse et qui meurt à 24 ans de tuberculose, comme d'ailleurs beaucoup d'autres à cette époque. Voilà cette vie, et puis son influence mondiale. Elle est patronne universelle de l'émission, elle est patronne secondaire de la France avec Jeanne d'Arc, plus de 1000 églises lui sont consacrées dans le monde, et son visage a été diffusé dans l'univers entier. Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien de notable, elle a fait quelques images, comme avant dans les Carmels, elle a balayé le cloître, elle s'est occupée des novices à la fin de sa vie, sans être vraiment maîtresse des novices. Elle a laissé deux petits cahiers de souvenirs, qui ne sont pas très gros, 84 pages et 32 pages, qu'elle a écrit par obéissance, et puis quelques poésies. Alors c'était vraiment une étonnante idée de publier le 30 septembre 1898, jour pour jour, un an après sa mort, un livre de 476 pages qui valait 4 francs, et qui s'appelait l'histoire d'une âme. Le Carmel de Lisieux tire ce livre à 2000 exemplaires en se demandant s'il va le vendre. Monsieur Guérin, l'oncle Guérin, le pharmacien de la rue Saint-Pierre, est un peu angoissé de l'idée de publier les souvenirs de sa nièce. Et contre toute attente, au bout de 6 mois, il faut retirer le livre. Deuxième édition. Et puis troisième édition, etc. C'est parti. Les traductions se multiplient en 1900 en polonais. La première traduction est en polonais. 1901 en anglais, en italien, 1904 en hollandais, 1905 en allemand, en portugais, en espagnol, en japonais, en russe, et nous en sommes à plus de 40 langues, en tout même des dialectes. Alors attention, parce qu'il ne s'agit pas du tout d'un succès de librairie, style best-seller que nous voyons fabriquer aujourd'hui. Le succès de l'histoire d'Anne se situe sur un tout autre plan. Je résume le schéma, parce que Thérèse a été connue par un livre, je résume le schéma. Ce livre est acheté ou prêté. Les gens le lisent, si ça leur plaît, même plus que si ça leur plaît. Certains sont convertis dans la nuit en le lisant, et quelqu'un qui commence le soir, qui termine à 2h du matin et qui est complètement retourné. Bon. Mais sinon, en gros, les gens sont séduits par Thérèse, la prient, alors qu'il n'y a pas de raison de la prier, si je puis dire, la prient, lui demandent des grâces, ils sont exaucés. Guérison, guérison intérieure, guérison de gens malades. Forcément, ils écrivent à Lisieux. Ils viennent même prier sur sa tombe, qui est le cimetière derrière la basilique. Et voilà, et c'est parti. Il faut mettre un garde-champêtre sur la tombe parce qu'il y a trop de monde. Et puis le Carmel est submergé de lettres. Il reçoit d'abord 30 lettres par jour, et puis 100, et puis 500 par jour, et dans les années 25, 1000 par jour. Il n'est pas question pour les carmélites qui sont entrés au Carmel pour prier de répondre à tout le monde. Il faudra créer des offices pour répondre. Elles vont quand même tenir le coup dans la tempête. C'est ce qu'on a pu appeler, enfin, tout ce bien que Thérèse, pied de rose, mais elle fait ce qu'elle avait dit. Ma mission est de faire du bien sur la terre, elle ne fait que commencer. Dès 1903, il y a un jeune prêtre anglais, le père Taylor, qui est complètement touché par Thérèse, qui vient à Lisieux, qui va au parloir, qui voit ma mère Marie-Gonzague, sa mère Agnès, les sœurs, et qui dit « il faut faire canoniser votre petite sœur ». Mère Marie-Gonzague dit « mais alors, si on la canonise, on va toute canoniser ». Léonie, qui est devenue Françoise Thérèse et qui est à la visitation de Caen, est en train d'étendre du linge dans le jardin. La prieure, la mère abbesse, je ne sais pas comment on l'appelle, vient la voir et dit « Ma sœur, vous savez qu'on parle d'un procès de canonisation pour votre sœur Thérèse. » Léonie dit « Oh, elle était bien gentille, mais enfin une sainte. » Donc, contraste incroyable entre ce qu'elle vit d'une manière cachée et puis en 1925, elle est canonisée. Elle avait écrit en 1893 « Je sais qu'il faut bien du temps à la cour de Rome pour faire les saints. » Mais pour elle, tout a été hâté, il a fallu se dépêcher, et les papes ont annulé les lois juridiques pour que ça aille plus vite. Oui, c'est tout à fait mystérieux et fascinant, ce contraste. Et on dirait bien l'illustration de ce que dit saint Paul Colossien. Notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Et Thérèse n'a pas attendu le retour du Christ pour paraître en pleine gloire. À propos de la gloire, je vous rappelle qu'elle avait écrit, à propos de sa lecture, elle aimait beaucoup lire Thérèse, dire le nombre de livres qui m'ont passé dans les mains ne me serait pas possible avant d'entrer au Carmel. Et elle lit certains récits chevaleresques, là à ce moment-là, elle a entre 11, 12 ans, 13 ans. Il est vrai qu'en lisant certains récits chevaleresques, je ne sentais pas toujours au premier moment le vrai de la vie. Mais bientôt, le bon Dieu me faisait sentir que la vraie gloire est celle qui durera éternellement et que pour y parvenir, il n'était pas nécessaire de faire des œuvres éclatantes, mais de se cacher et de pratiquer la vertu en sorte que la main gauche ignore ce que fait la main droite. C'est ainsi qu'en lisant les récits des actions patriotiques des héroïnes françaises, en particulier celle de la vénérable Jeanne d'Arc, n'oublions pas, Jeanne d'Arc n'était pas canonisée du temps de Thérèse, elle n'est là encore que vénérable, et Thérèse a prié pour que Jeanne d'Arc soit canonisée. Elles l'ont été à 5 ans d'intervalle, alors qu'elles sont séparées par 5 siècles. J'avais un grand désir de les imiter. Il me semblait sentir en moi-même la même ardeur dont elles étaient animées, la même inspiration céleste. Je pensais que j'étais né pour la gloire, et cherchant le moyen d'y parvenir, le bon Dieu m'inspira les sentiments que je viens d'écrire. Il me fit comprendre aussi que ma gloire à moi ne paraîtrait pas aux yeux mortels, qu'elle consisterait à devenir une grande sainte. Mais ce qu'elle n'a pas prévu, c'est que cette sainte serait connue aussi au temps de Jeanne d'Arc. Il faut donc partir du vrai de la vie. Je dois vous confier que pour faire une vie de Thérèse un petit peu détaillée, il faut une douzaine d'heures. Alors vous voyez que nous sommes loin du compte. Pourtant, je vais très rapidement brosser une grande fresque, si on peut dire, la vie de Thérèse, dans ses moments essentiels, en laissant tomber beaucoup de choses, pour avoir justement l'idée de cette trajectoire. Car sa vie tout entière est comme un météore qui traverse le ciel. Elle a consumé sa vie en 24 ans. Et les étapes sont très variées et très différentes. Souvent, on a une idée de Thérèse très monolithique. Ou alors, on connaît quelques anecdotes, mais on ne se rend pas compte de l'itinéraire qu'elle a, parce qu'elle a vécu. Cette fresque, je la prendrai sous cet angle. Thérèse Martin a fait l'expérience personnelle d'avoir été vraiment sauvée par l'amour miséricordieux. Ce que Thérèse nous dit, elle ne le dit pas comme un théologien, elle n'est pas du tout théologienne, elle nous le dit comme quelqu'un qui nous livre sa vie. D'ailleurs, ça a été providentiel que sa prieure lui dise d'écrire sa vie, comme Thérèse d'Avila, qui a écrit sa vie dans d'autres circonstances, mais à qui qu'on a obligé d'écrire sa vie. Donc je vais très rapidement brosser les grands moments de la vie de Thérèse. Sous ce point de vue, elle a été vraiment sauvée par le Seigneur. Elle a l'expérience du salut. Thérèse d'Alençon. N'oublions pas qu'avant qu'il y ait Thérèse de Lisieux, il y a eu Thérèse d'Alençon. 4 ans et demi. Ce n'est pas long, mais c'est tout à fait capital pour la formation d'une enfant. 4 ans et demi, dont 1 an en nourrice à Semalais, où c'est très important pour elle, même tout bébé, de vivre dans la campagne, dans cette vie. Petit coin isolé, très sympathique. Globalement, on peut dire que pendant ces 4 ans et demi, Thérèse est heureuse. Le fond du tempérament de Thérèse Martin, c'est l'amour de la vie, l'amour de sa famille, l'amour de Dieu. Elle est enracinée en terre normande, elle a un heureux caractère, elle a des défauts, elle est sujette à l'entêtement, à l'amour propre. Elle résume ainsi sa période à l'ensemble elle-même. Tout me souriait sur la terre. Je trouvais des fleurs sous chacun de mes pas. Et mon heureux caractère contribuait aussi à rendre ma vie agréable. Je résume 4 ans et demi en 2 minutes, vous voyez, mais c'est le fond. Un fond de très sain, un fond heureux. Thérèse a du tempérament, elle est une petite fille très vive. Nous avons là toute la correspondance de Mme Martin et d'autres qui nous le montrent. Et puis c'est le drame. Le choc brutal de la mort de sa mère, qui meurt d'un cancer du sein. Thérèse a 4 ans et demi. Et vous savez qu'elle nous dit qu'à la mort de sa mère, elle ne pleure pas, pratiquement pas. Tout est intériorisé. Et c'est presque tout de suite après le déménagement à Lisieux. Monsieur Guérin préférait que sa famille ne soit pas très loin et il trouve la maison des Buissonnets et on s'installe à Lisieux. La période des Buissonnets, qui comporte plusieurs étapes. Je suis frappé de voir, lorsqu'on visite les Buissonnets avec des foules, c'est charmant, c'est émouvant. C'est l'enfance, on s'extasie, on s'attendrit. Mais si l'on écoute Thérèse, la période des Buissonnets n'est pas une période facile du tout. Si l'on accepte les 3 premières années de 5 à 8 ans où elle vit dans son petit jardin avec son papa, etc., et ses sœurs. Mais si on prend le moment où elle part à l'école chez les bénédictines, elle parle d'années de souffrance. L'école, lui, est fort pénible parce qu'elle a difficulté à avoir des relations avec les autres, elle ne se retrouve qu'en famille, et à partir de d'octobre 82, elle a 9 ans, elle perd sa seconde mère, c'est-à-dire que Pauline entre au Carmel. Et vous savez que pour Thérèse, c'est un drame, car elle avait choisi Pauline comme mère. Et ceci est tellement vrai que Thérèse en tombera malade, et que un peu plus tard, elle va perdre sa troisième mère, qui est Marie, qui entre au Carmel. Et on pourrait dire, entre parenthèses, qu'elle aurait pu haïr ce Carmel qui lui prenait ses sœurs et ses mères, d'autant plus qu'elle a énormément souffert au parloir du Carmel, comme elle le dit très bien, les jeudis, où elle allait voir Pauline et où Pauline ne faisait pas attention à elle parce qu'on n'avait pas le temps. Et donc Thérèse va connaître une série de guérisons intérieures, et plus que de guérisons intérieures, de guérisons extérieures, qui font, jusqu'à la grâce de Noël 86, où elle a 14 ans, qui font que tout ce temps des Buissonnets est un temps de très grande souffrance, dont la première est cette maladie assez mystérieuse, mais enfin qu'on explique par cette carence affective depuis la mort de sa mère, le départ de Pauline, qui fait que Thérèse a une très grave maladie, donc on ne sait pas très bien diagnostiquer, mais enfin, elle dit elle-même qu'elle était menacée soit de rester idiote ou de mourir. Elle a plus de 9 ans. Maladie qui dure 2 mois, dont on ne sait plus quoi faire, et c'est là qu'il y a la nouvelle à Notre-Dame des Victoires et la guérison par la Vierge du Sourire. Mais cette guérison est guérison très importante parce que Thérèse était vraiment très malade, mais il y a des séquelles à cette maladie, séquelles psychologiques, séquelles intérieures. Pendant 4 ans, Thérèse va rester troublée en se demandant si elle n'a pas fabulé sa maladie. Et pendant 5 ans, corrélativement, elle se demande si vraiment, plutôt c'est l'inverse, enfin, si la Vierge a vraiment souri, si elle a été guérie, vraiment par la Vierge, si elle n'a pas inventé. C'est fin octobre 86 que l'adolescente ou la préadolescente Thérèse, toujours hypersensible, toujours en pleurs, toujours scrupuleuse, elle va à Alençon, les gens qui la voient trouvent qu'elle n'a pas de caractère, touche le fond, car Marie entre au Carmel. Thérèse est de plus en plus isolée. Et à ce moment-là, elle n'a qu'un appui, car elle passe par une crise de scrupules très grande, elle n'a qu'un appui, c'est sa sœur Marie, et c'est Marie qui s'en va. Thérèse ne sait plus comment faire, et là, elle a ce réflexe étonnant de se tourner, non pas vers la Sainte Vierge, non pas vers le Christ, non pas vers un saint, mais vers ses petits frères et sœurs qui sont morts en bas âge. Elle en a perdu 4. La mortalité infantile n'était pas un vain mot. Elle se tourne vers eux, et en octobre 86, ses scrupules, sa forte crise de scrupules est guérie. Bien. Mais elle n'est pas au bout de ses peines, car sa sensibilité n'a pas bougé. Et elle dit elle-même, car tout ce que je vous dis là, je ne m'appuie que sur des textes, elle dit elle-même qu'à ce moment-là, restant seule avec Céline à la maison, puisque Léonie faisait des essais de vie religieuse répétés, elle ressortait, etc., elle dit qu'elle était tellement sensible qu'elle pleurait d'avoir pleuré. Elle n'est pas très dégourdie, parce qu'au Buissonnet, elle essaie de faire son lit. On ne dit pas qu'elle le fait, elle essaie. Et de temps en temps, elle sort des pots de fleurs de Céline pour rendre service. Elle a presque 14 ans. Et elle pense toujours rentrer au Carmel. Et elle dit elle-même, mais c'était incroyable que, tel que j'étais, je puisse encore entrer au Carmel, dans une vie aussi difficile. Et c'est alors la troisième guérison, plus qu'une guérison, la véritable conversion de Thérèse. Car on oublie que Thérèse aussi est une convertie. Elle n'est pas convertie au sens où quelqu'un qui est dans le monde incroyant se convertit. Mais elle est convertie en profondeur parce que là, dans cette nuit de Noël 86, ne sachant plus comment sortir de ses problèmes, elle est subitement, au retour de la messe, confortée, transformée, et en un instant, ce qu'elle n'avait pas pu faire en des années, le Seigneur le fait en elle. Remarquons que c'est une grâce eucharistique, car elle venait de communier à la cathédrale Saint-Pierre. Elle est transformée, et comme elle le dit, elle retrouve son caractère d'enfant, c'est-à-dire son goût de la vie, son caractère de force qu'elle connaissait jusqu'à 4 ans et demi. Et elle ajoute que c'est une sortie de l'enfance en même temps. Le Seigneur la sort de l'enfance. Alors là, c'est quelque chose d'assez subtil parce que on a tellement souvent confondu l'enfance spirituelle avec l'infantilisme. C'est Thérèse elle-même qui nous dit que la grâce de Noël l'a sortie de l'enfance et de ses défauts. Elle était très lucide. Et il est certain qu'elle est véritablement transformée. Et c'est alors l'épanouissement de la grande année 87. Elle a 14 ans. Cette année 87 est une année d'épanouissement sur tous les plans, physique, spirituel, intellectuel. Et c'est le moment où, au Belvédère, elle lit le livre d'Armingeon, c'est toute sa théologie presque d'adulte. Elle prend en charge l'assassin Pranzini. Elle a 14 ans et demi, cet assassin dont toute l'Europe parlait. Il avait assassiné 3 femmes à Paris. Elle prie pour lui. Et comme maintenant elle se sent dégagée de tous ses scrupules, ses faiblesses, ses difficultés, sa sensibilité, elle pense qu'elle va pouvoir entrer au Carmel. Et sa vocation est en même temps une mission. C'est à la cathédrale Saint-Pierre qu'à une messe, elle voit le Christ qui saigne sur une image et elle dit je serai là pour recevoir ce sang sauveur que personne ne recueille. Et elle va l'appliquer tout de suite à Pranzini. Vous savez que quand elle lit la croix, où elle voit que Pranzini, au dernier moment, avant de monter à la guillotine, embrasse le crucifix que lui présente l'aumônier, alors qu'il avait toujours refusé, pour elle, c'est un signe que sa vocation est acceptée. Elle dit voilà mon premier enfant. Elle a 14 ans et demi. Et donc, il faut qu'elle lutte pour le Carmel, car ce n'était pas évident à son âge d'entrer au Carmel. Donc, elle va sauter tous les obstacles. Son père, ça sera facile. Son oncle, un peu plus difficile, mais elle y arrivera. La difficulté, ça sera le supérieur du Carmel, monsieur de la Troette, qui est radicalement opposé à son entrée, et qui sera 4 ans opposé à Thérèse, encore après. Mais si Monseigneur est d'accord, il ne pourra rien dire. Donc, on va aller à Bayeux voir Monseigneur Hugonin. Et comme Monseigneur ne dit rien, et qu'il se trouve qu'on va faire un pèlerinage en Italie, alors on demandera au pape. C'est Thérèse qui a décidé de demander au pape. Vous savez que le pape ne lui donnera pas une réponse immédiate, et que malgré tout, après bien des péripéties, elle entrera à 15 ans et 3 mois au Carmel. Thérèse, en entrant au Carmel, a conscience que le Seigneur l'a guidée et l'a sauvée de bien des choses. Elle a déjà cette expérience que je vous ai résumée très rapidement, que le Seigneur plusieurs fois l'a sauvée de situations dramatiques. Elle était vraiment mal partie dans la vie, Thérèse, avec tout ce fardeau. Et je comprends mieux M. de la Troette qui n'a pas assumé de prendre cet enfant de 15 ans et demi. C'était bien jeune pour la vie du Carmel à l'époque, comme ça serait encore aujourd'hui. Mais c'était contre toute sagesse humaine. Évidemment, il n'était pas au courant de son évolution intérieure. Au Carmel. Thérèse entre au Carmel avec une ardeur très forte. Elle ne doute pas qu'elle doit devenir une sainte, enfin au moins une sainte carmélite. Et tout de suite, elle entre dans beaucoup de souffrances. Souffrances variées. Bon, je ne passe pas sur le fait de changer de régime de vie, de passer de la vie des Buissonnets au Carmel, même si les chambres n'étaient pas chauffées au Buissonnets. Au Carmel, elle avait encore plus froid. Régime alimentaire, vie communautaire qu'elle ignorait totalement, 6-7 heures de prière, et puis le sommeil, car elle était bien jeune, elle avait un peu plus de sommeil que les autres, mais ça n'empêchait pas d'avoir souvent sommeil. Mais ça, c'était rien. La grande souffrance de Thérèse, presque tout de suite, elle est encore postulante, c'est la maladie de son père. Car son père, c'était tout dans sa vie. Elle disait qu'en pour avoir idée de Dieu, elle regardait son père. Et à peine est-elle entrée, son père a ses premières crises et qu'il est, très rapidement ensuite, le 12 février 89, interné au Bon Sauveur de Caen, ce que nous appelons maintenant publiquement l'asile psychiatrique. Ceci pour Thérèse, c'est l'épreuve, elle n'aura peut-être pas d'épreuve plus grande, elle a 16 ans. Car en effet, elle est maintenant, si on peut dire, prisonnière de la clôture, car en ce temps-là, on ne sortait pas facilement, on ne sortait pas du tout. Et même, on raconte dans Lisieux, on raconte même au parloir que si le père maintenant perd la tête, c'est un peu à cause de sa petite dernière qui est entrée au Carmel, qu'elle aurait mieux fait de rester avec lui. Thérèse, à cause de cela, pratiquement, est retardée, on l'oublie souvent, est retardée à son postulat, au lieu de faire 6 mois, elle en fera 9, et elle est retardée à son noviciat, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 12 mois, elle en fera 20. Et puis, le bail des Buissonnets est résilié. La famille est en train de se défaire. Le père interné, Céline est partie avec Léonie pour être auprès de leur père en louant une chambre à Caen. Les Buissonnets sont abandonnés. Le chien Tom tire sur sa laisse là-bas parce qu'elle avait son chien qu'elle aimait bien. Et Thérèse, je dirais, n'a plus que Dieu seul. C'est pourquoi elle est venue au Carmel, mais maintenant il faut le vivre. Elle dit, je suis entrée d'abord dans 5 années de souffrance. Et puis la souffrance aussi, c'est ce qu'elle vit intérieurement. C'est-à-dire, c'est pas si facile que ça de devenir une bonne carmélite. Et Thérèse se heurte à sa propre impossibilité. Elle se rend compte que ce n'est pas la force du poignet qu'elle arrivera. D'autant plus qu'elle n'est pas tellement aidée dans son milieu. Le climat général du Carmel, comme d'ailleurs de la chrétienté occidentale, peut-être française, encore marquée de jansénisme, est un climat qui est plutôt à la crainte. Un seul exemple, Thérèse n'a jamais pu supporter les retraites, tant les retraites privées que les retraites personnelles. Sa sœur disait qu'elle venait toute pâle, qu'elle ne mangeait plus, et qu'heureusement, et ça s'arrêtait. Ceci, je pense, remontait aux retraites qu'elle avait eues chez les bénédictines, et qui l'avaient terrorisée, et qui l'avait d'ailleurs fait tomber la deuxième fois, pour le renouvellement de sa première communion, dans le scrupule. Il faut dire que j'ai lu parfois quelques retraites dont on a des notes, ce n'était pas particulièrement réjouissant, les retraites. Même les pères les plus libéraux avaient toujours un chapitre « Comment les religieuses vont en enfer ?» Ce qui n'est pas particulièrement réjouissant. Et Thérèse n'a pas trouvé tellement d'aide auprès des prêtres, pour bien le dire. Il y en a eu un qui l'a vraiment aidé à un certain moment, qui est venu prêcher une retraite précisément, le père Pau, un franciscain récollet de Caen. Et le père Pau était spécialiste des grands pêcheurs et prêchait des grandes retraites partout. Dans les Carmélites, avait dit, bon, mais il ne pourra pas nous faire du bien. Et il a fait du bien qu'à une seule, à Thérèse. Et Thérèse, malheureusement, n'a pas pu le revoir, car même Marie Gonzague lui a interdit de le revoir. Elle n'avait pas le droit de faire ça, mais enfin, elle l'a fait. Mais lui, il lui a ouvert, comme elle dit, elle l'a lancé sur les flots de la confiance et l'amour. Thérèse, dans ce milieu, oh, qui est un bon milieu, mais qui vit encore un peu dans la crainte, et qui se fait de Dieu des fois une drôle d'idée, Thérèse pressent que c'est l'amour, la confiance qui doit la guider. D'autant plus qu'elle est en train de lire ce qui est assez exceptionnel. À cette époque, elle lit Jean de la Croix, le docteur de l'amour. Elle étonne ses sœurs, d'ailleurs, en lisant cela. On lisait peu Saint Jean de la Croix à cette époque-là. Mais elle n'a personne qui peut lui dire qu'elle est sur la bonne voie. Et puis aussi, ça peut paraître original, mais elle lit l'Évangile. Non pas qu'on ne lisait pas l'Évangile, mais n'oublions pas que Thérèse n'a jamais eu la Bible entre les mains intégralement. c'était pas accepté au noviciat, car la Bible à ce moment-là n'était pas mise entre toutes les mains. Et donc, elle avait quand même l'évangile et elle méditait l'évangile à l'oraison. Je ne dis pas que les autres ne faisaient pas ça, mais souvent on faisait des méditations sur des commentaires d'évangile et non pas sur l'évangile lui-même. Thérèse avance et elle en arrive à un point où elle se dit, mais vraiment, devenir une sainte telle qu'on me l'a montré, c'est-à-dire les grands saints, Thérèse d'Avila, saint Augustin, saint Paul, les grands saints de toutes les époques, mais c'est vraiment impossible. Impossible. Il y a une différence incroyable entre ces grands saints qui sont comme des montagnes et puis moi qui suis un petit grain de sable, comme dit. Alors que faire? La première chose, c'est de se décourager. Vous savez, je crois qu'on est tous tentés de jeter l'éponge au moins à partir d'un certain âge. On dit vraiment, c'est pas pour nous. Mais elle avait comme résolution de retraite, de première communion, je ne me découragerai jamais. Et d'autre part, elle a un axiome, un postulat qu'elle a lu dans saint Jean de la Croix, qui est « Dieu ne met jamais en nos cœurs des désirs irréalisables. Si Dieu met en nous ses désirs, c'est qu'il veut les combler. Alors que faire? D'un côté, je veux être sainte, je m'aperçois que c'est impossible, je n'y arriverai jamais par mes propres forces, et d'autre part, Dieu veut que je le sois. » Alors, ça en fera le récit de cette découverte formidable dans son manuscrit C. Il se trouve qu'un jour, mais faisant raison avec le carnet de Céline, carnet biblique que Céline avait apporté en entrant au Carmel, Thérèse découvre deux textes de l'Ancien Testament. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi, et comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein, et je vous balancerai sur mes genoux. Et Thérèse, qui depuis des années cherchait une voie, il y a une sorte de cristallisation qui se fait, et elle a une espèce d'illumination qui lui dit, mais oui, je peux être sainte parce que Dieu va faire ma sainteté. Mais il ne va pas la faire en me faisant très grande, en me faisant du calibre des grands saints. Il va le faire si je reste petite, et non seulement si je le reste, mais si je le deviens de plus en plus. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial, car ce n'est pas une sainteté au rabais, mais c'est une sainteté que Dieu fait dans l'être tel qu'il est en réalité, tel que nous sommes. Elle, Thérèse Martin, qui était sûrement moins douée humainement, qu'une Thérèse d'Avila ou un saint Augustin. C'est la découverte de l'amour miséricordieux. Et c'est pourquoi l'année 95 et début 96 est une année de grand épanouissement et qu'elle ne peut rien faire de mieux qu'ayant découvert, j'allais dire, excusez-moi, cette banalité, si on peut dire, que l'Évangile nous dit, mais encore faut-il le découvrir personnellement, que Dieu est l'amour miséricordieux qui vient vers nous, qui s'abaisse vers nous, c'est l'incarnation, c'est le Christ homme parmi nous. Eh bien, elle va s'offrir à l'amour miséricordieux. Et elle fait cela au cours d'une messe, le 9 juin 1995, et immédiatement elle entraîne Céline à faire comme elle. Ce qui prouve bien que ce n'était pas réservé à une élite, mais que c'était pour tout chrétien qui voulait bien répondre au Seigneur. Et puis ensuite, elle convoquera les autres novices à faire de même. Et c'est une chance incroyable, mais c'est plus qu'une chance, c'est une grâce providentielle. C'est cette année-là que sa prieure, qui est mère Agnès, lui dit d'écrire ses mémoires, d'écrire ses souvenirs. Si Mère Agnès avait demandé ça 2 ans avant, nous n'aurions jamais eu les manuscrits. Nous aurions eu autre chose. Ça tombe juste comme il faut, car Thérèse, à partir de 1995, va plutôt relire toute sa vie et se rendre compte que l'amour miséricordieux était présent à chaque étape de sa vie. L'amour miséricordieux était présent quand sa mère est morte, parce que, au sein même de sa détresse, le Seigneur était présent. Il était présent quand elle était malade. Il était présent quand elle était perdue dans ses scrupules. Il était présent au moment de sa conversion. Et c'est pourquoi elle dit, je ne raconte pas ma vie, je raconte les grâces que Dieu a fait dans ma vie. Ce qui est très différent. Et l'histoire d'une âme, c'est ça. C'est l'histoire des miséricordes dans ma vie. Mon expérience d'être sauvé par le Seigneur. Alors, cette année 95, ce début 96, ça paraît formidable parce que Thérèse a découvert cela, elle le vit, elle sait qu'elle se sent malade et elle pressent qu'elle ne vivra pas très longtemps. Et le jour de jeudi saint 96, la nuit, enfin juste avant le vendredi saint, elle crache du sang, elle a une hémoptysie, et bien loin de la rendre affolée, elle est toute heureuse parce qu'elle dit c'est un signe, vraiment un signe que le Seigneur me fait, je vais mourir comme Jésus peut-être, vendredi saint, c'est merveilleux si je puis dire, pour un chrétien. Et en fait, elle ne meurt pas, et non seulement ça, mais à Pâques 96, Nouvelle étape absolument inattendue, Thérèse entre dans la nuit de la foi, la nuit de l'espérance. Thérèse, c'est une épreuve mystérieuse, mais Thérèse nous dit qu'elle a l'impression de ne plus avoir la foi. Elle l'a toujours, elle fait des actes de foi, mais qu'elle a l'impression que, non pas que Dieu n'existe pas, elle ne le dit jamais, mais qu'elle va vers le néant. Et elle qui vivait dans la foi comme un poisson dans l'eau, soudain, elle a l'impression que tout ça est illusion. Mais ça ne change pas son cap, qui est celui de la confiance et de l'amour. Car si elle avait confiance dans les moments où ça allait bien, elle va continuer à faire confiance quand ça va très mal. Et là aussi, personne ne s'en rend compte, qu'elle en parle pratiquement qu'à son confesseur et à sa mère prieure, et elle continue d'écrire de très jolies poésies qui donnent le change à sa communauté en disant « Cette petite-là, elle n'a aucun problème, elle est vraiment merveilleuse. » En fait, elle vit une nuit de la foi très forte. Et bon, je passe très vite. Ensuite, on lui demandera, on s'aperçoit qu'elle est gravement malade, elle abandonne la vie, ça c'est début 97, elle abandonne la prière au cœur, elle abandonne le réfectoire, elle reste dans sa cellule. Et c'est là que Mère Agnès, complètement affolée, demande à Mère Marie Gonzague qu'elle puisse continuer ses souvenirs. Mère Marie Gonzague apprend que Thérèse avait fait un cahier. Alors elle donne la permission et Thérèse écrit ce qu'on appelle le petit manuscrit C, le petit cahier noir, qui est pratiquement son testament. Et ensuite, ce sont les derniers entretiens, les dernières lettres à ses frères, et le grand combat de la passion de Thérèse, où elle se révèle pleine d'humour, souffrant, comme souffrent les malades, vraiment, oui, comme les malades, et en même temps, vivant à fond, la petite voix, c'est-à-dire la confiance, quand même, bien Dieu me tuerait, j'espérerai toujours en lui, cette parole de Job m'a toujours séduite dès mon enfance. Mais elle mène un combat très dur, la tuberculose généralisée. Elle dit, si j'avais pas eu la foi, je me serais suicidé certainement, tellement elle souffre. Mais en même temps, l'infirmerie n'est pas un lieu triste. Les novices sont interdites d'aller à l'infirmerie, mais enfin, elles y vont un petit peu quand même. Les sœurs y vont, c'est Thérèse qui remonte le moral de ses sœurs, qui fait des plaisanteries, qui remonte ses sœurs, oui. Et c'est pendant ces derniers mois qu'elle a des paroles un petit peu, enfin, mystérieuses, c'est-à-dire que les sœurs les entendent, mais ne réalisent pas tellement ce qu'elle dit. Elle pressent sa mission posthume. Elle dit, « Ma vraie mission commencera après ma mort. » Et elle prie pour faire du bien après sa mort. Elle fait une neuvaine même pour cela. Elle dit « Pendant ma vie, je n'ai rien pu faire vraiment. » Elle meurt donc le 30 septembre 97, demain c'est l'anniversaire, à 7h20, en disant « Je ne me repens pas de m'être livré à l'amour. » Tout cela est très gâché, elle meurt, on vient au Carmel pour une messe d'enterrement, et c'est Léonie qui mènera le deuil, M. Guérin est malade, et elle sera enterrée, je veux dire, au cimetière derrière la basilique, et enfin, il n'y a pas de basilique à l'époque. Et c'est terminé, on range les affaires, on brûle la paillasse, et la vie continue. Il faudra ce livre un an après pour que ce que je vous disais tout à l'heure parte. Voilà un très gros, la fresque si vous voulez, dont nous pouvons tirer, sinon des conclusions, du moins quelques réflexions. D'abord, Thérèse n'est pas sainte dès le sein de sa mère. Elle a connu une histoire avec des hauts et des bas. Elle était, je vous disais, même très mal partie dans la vie, au niveau de son équilibre affectif, de son équilibre humain. Et elle a donc fait cette expérience que dans des situations apparemment désolées, des situations même désespérées, le Seigneur a été présent dans sa vie. Elle a expérimenté ses limites, ses échecs, la maladie, enfin plusieurs fois la maladie finale, et elle a expérimenté que, se livrant de plus en plus à l'amour, faisant confiance totale, Dieu était présent. Ceci ne paraît rien, mais c'est l'expérience fondamentale du christianisme, c'est l'expérience fondamentale des apôtres, c'est l'expérience fondamentale d'un Saint-Pierre marchant sur les eaux. Et c'est cette expérience à quoi nous convie Thérèse. Car Thérèse s'est jetée dans les bras de Dieu, elle a fait le grand saut. Et Dieu l'a rattrapée, si je puis dire. Mais elle a expérimenté cela. Car sa géniale découverte, sa découverte fondamentale de la petite voix, ce n'est pas autre chose que l'Évangile. Ce n'est pas autre chose que l'Évangile. C'est le cœur même de l'Évangile. L'homme ne peut pas se sauver tout seul. Et un jour, les apôtres disent à Jésus, mais comment on peut être sauvé alors? Jésus dit, c'est impossible à l'homme. Thérèse a exactement la même formule. C'est impossible à l'homme. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. C'est Dieu qui donne la sainteté, c'est Dieu qui nous donne tout. Et Thérèse, qui était passée d'une spiritualité de comptabilité, que je ne critique pas, moi aussi j'ai fait ça dans mon enfance, on m'a fait faire. Enfin, elle avait fait, je ne sais plus combien, 2414 sacrifices pour sa première communion et 1700 invocations. 70 choses à faire par jour. Sur son lit de mort, elle dit, j'arrive devant Dieu les mains vides. Je n'ai rien. Dieu me comblera. La gratuité absolue de l'amour. Car le propre de l'amour, c'est d'être gratuit. Il n'y a pas de raison à l'amour. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes aimables. Mais nous sommes aimables parce que Dieu nous aime. Dieu est amour miséricordieux, et c'est pourquoi l'encyclique sur la miséricorde de Jean-Paul II n'est pas, comme l'ont dit certains journalistes, une aimable méditation spirituelle que le pape aurait faite pour se détendre un peu. J'ai lu ça. Il aurait fait la première, Redemptor Hominis, ça c'est du solide, c'est formidable. Et puis après, pour se défatiguer, il aurait écrit une méditation spirituelle sur la miséricorde. Mais pas du tout, je crois, cette encyclique, c'est le cœur de la spiritualité du pape. Et puis après, il peut en faire encore une autre sur le travail. Mais il faut les lire, je dirais, toutes. Et c'est tellement vrai que lorsque Jean-Paul II est venu là, en sortant au-dessus, il nous a dit, parlant de Thérèse, il a quand même voulu venir à Lisieux, il nous a dit, de Thérèse de Lisieux, on peut dire avec conviction que l'Esprit de Dieu a permis à son cœur de révéler directement aux hommes de notre temps le mystère fondamental. La réalité fondamentale de l'Évangile, le fait d'avoir reçu réellement un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». La petite voix est la voix de la sainte enfance. Dans cette voix, il y a en même temps que la confirmation et le renouvellement de la vérité la plus fondamentale et la plus universelle. Ce sont des mots très forts. Quelle vérité du message évangélique est en effet plus fondamentale et plus universelle que celle-ci ? Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Alors ceci me... Enfin, je trouve ces paroles très très fortes, parce que lorsque Thérèse le redécouvre, je dirais, en vivant la paternité divine, elle est au cœur de l'essentiel de l'Évangile. Donc, elle est une bonne route. Autre remarque, Thérèse nous rappelle, vit que la sainteté n'est pas l'impeccabilité, l'héroïsme des grandes choses, mais la confiance totale en cet amour du Père révélé dans le Christ, animé par l'Esprit Saint, qui nous permet l'audace, ça ce sont des mots thérésiens, l'audace, le téméraire abandon, la foi poussée au rouge. C'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. Et en aucune circonstance, la plus désespérée soit-elle, la témérité et la confiance ne doivent céder. Et en plus, cette sainteté se fait dans la vie quotidienne, quotidienne, la plus quotidienne qui soit, et je crois que c'est pour ça que Thérèse a touché tellement de gens dans le monde, sinon elle n'aurait touché que des carmélites. Or, elle a touché des mères de famille, des célibataires, des hommes de tous les continents, dans toutes les situations, parce que ce qu'elle nous dit est tellement universel que ça ne demande pas un état de vie particulier. Si vous voulez, ceci on le savait, mais on était quand même, à son époque, spontanément tourné vers ce qu'elle appelle, avec une nuance d'humour, les grandes âmes, les géants de la sainteté. Et puis, cette vie totalement donnée à l'amour, et par le fait même, et pas si elle le désire, mais associée à Jésus, missionnaire, apostolique, et je dirais même sociale et politique. C'est quand même étonnant que Thérèse, qui n'est jamais vraiment sortie de son Carmel, ait eu des relations, si je puis dire, avec des catégories de gens de son époque, qui représentent tout un monde. Pranzini, l'assassin, le père Loison, un provincial des Carmes, qui a quitté l'Église, qui s'est marié et qui faisait des conférences en France contre Vatican I, pour qui elle a prié jusqu'à sur son lit de mort. Léo Taxil, c'est toute une affaire, un franc-maçon qui était passé au christianisme, etc., qui a mené les catholiques dans l'imposture pendant 12 ans. Thérèse a été menée à sa affaire, on n'a pas le temps de la raconter, le français a été publié. Et puis plus tard alors, en rencontrant ses frères spirituels missionnaires, l'un qui partait en Afrique, l'autre qui partait en Chine, l'ouverture de sa vie à la mission universelle. Thérèse avait, dans son avant-cellule, une carte de la Chine où elle pointait les lieux où étaient ses frères, son frère spirituel qui baptisait les petits Chinois. Et elle avait pas la télévision, elle avait fort peu de nouvelles, mais elle vivait au rythme du monde. Et c'est pour ça aussi que Son cœur est immense et qu'elle est patronne universelle des missions, comme Saint François Xavier, alors qu'elle n'est jamais sortie de son Carmel. Ce qui est quand même un paradoxe incroyable. Et puis Thérèse, dans son épreuve, s'assoit, comme elle le dit, à la table des pécheurs. C'est-à-dire que pour elle, la mission n'est pas seulement la mission lointaine d'annoncer l'évangile aux peuples qui ne le connaissent pas, mais la mission intérieure, car elle s'est rendue compte que l'incroyance allait chez nous et même dans notre cœur. Et ce n'est pas pour rien que le cardinal Suard fondera la mission de France à Lisieux. Car on peut dire, Thérèse est patronne aussi de cette mission-là. Alors, vous voyez, je dirais l'historien, l'observateur de bonne foi, est obligé de constater que tout ce qu'a dit Thérèse dans l'obscurité de sa vie cachée s'est réalisé. Non pas comme une prophétesse qui annonce l'avenir, pas du tout. Mais tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle dit, se réalise dans sa vie. Le Seigneur ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Ou encore, autrement exprimé, plus Dieu veut nous donner, plus il nous fait désirer. Ceci, c'est du Saint Jean de la Croix. Elle a vérifié cela dans sa vie, car Thérèse est très réaliste. Thérèse a tout un aspect de vérification scientifique, j'oserais dire. Je ne sais pas si c'est son réalisme normand qui l'a poussé à ça. Elle a prié pour Pranzini, Pranzini est sauvé. Bon. Elle a voulu entrer au Carmel à 15 ans, elle y est entrée, avec un peu de retard. Elle voulait de la neige le jour de sa prise d'habit. C'est un petit détail de rien, bon, elle a eu de la neige. Elle voulait des frères prêtres, ça paraissait difficile parce que ses deux frères étaient morts en bas âge. À la fin de sa vie, les deux prières successives lui donnent deux frères prêtres spirituels, deux frères spirituels, et pour elle, elle ne croyait pas vraiment en Dieu, les osserait. Elle souhaitait l'entrée de sa sœur Céline au Carmel. Ça paraissait impossible. Le Carmel était déjà saturé de Martin. Il y avait Pauline, il y avait Marie, il y avait Thérèse. Encore Céline, ça faisait quatre. Thérèse d'Avila ne souhaitait pas qu'il y ait deux sœurs dans les mêmes Carmels. Et puis il y aura la cousine Marie Guérin. Ça fera cinq. Bon. Céline est entrée. Thérèse voulait mourir d'amour pour Jésus. C'est ce qu'elle a fait. Et puis après sa mort, elle voulait faire du bien après sa mort. Il sent qu'elle le fait. Elle voulait être missionnaire, elle est patronne des missions. Elle voulait être docteur de l'Église pour éclairer le monde. Alors là, elle ne l'est pas encore. Mais je pense que ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. En 1932, dans cette crypte, il y a eu un congrès de théologiens. Je crois que la basilique n'était pas finie, je pense, en 1932. Et un congrès de théologiens, on a demandé que Thérèse de Lisieux soit docteur de l'Église. Il y a eu des pétitions, la Croix en a parlé, l'Observatoire Romano, mais Pie XI n'a pas voulu. Parce que ça paraissait impensable qu'une femme soit docteur de l'Église en 1932. Alors depuis, il y a eu Thérèse d'Avila qui a fait la percée en 1970 avec Catherine de Sienne. Maintenant, il n'y a plus aucune raison que Thérèse ne le soit pas. Alors tous ces désirs réalisés montrent que Thérèse a fait confiance à Dieu et que Dieu l'a exaucé, non pas donnant, mais puisqu'il est mon Père et que je ne vis que pour lui. C'est normal que le Seigneur l'exauce, puisque c'est pour lui, c'est pas pour elle. Alors voyez, pour moi, Thérèse est une preuve de la vérité de l'Évangile, parce qu'elle a tellement médité la parole de Dieu, elle a tellement cru que la parole de Dieu est efficace, ce que nous avons beaucoup de mal à croire, que la parole de Dieu fait ce qu'elle dit, que ceci s'est passé dans sa vie. Et elle nous montre dans la réalité de sa vie, dans tous ces aspects concrets de sa vie, qu'il est possible de croire que Dieu est Père et que nous pouvons aller à lui tel que nous sommes, pas tel que nous imaginons que nous devrions être, tel que nous sommes. Vous savez qu'avant de mourir, elle n'avait pas fini ses souvenirs. Et elle a eu très peur. Elle a dit, ma mère, attention, dites bien. Parce que je connais l'objection, tout le monde la connaît. Elle, c'était Thérèse de l'enfant Jésus. Donc elle pouvait faire confiance parce qu'elle n'avait pas fait de gros péchés. Ce qui était vrai, au sens moral, canonique, bon. Mais, elle dit, dites bien ma mère, expliquez bien que la petite voix, c'est pour tout le monde, y compris les grands pécheurs. Car si j'avais commis tous les crimes du monde, et elle pense à Pranzini, l'assassin, mais elle pense à tous les crimes du monde, j'irais quand même me jeter dans les bras de mon père, et je jetterais mes péchés, qui ne seraient qu'une goutte d'eau dans un brasier d'amour. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que Thérèse retrouve l'Évangile, car l'enfant prodigue, c'est ça. Alors, c'est pourquoi Thérèse, par exemple, parce que tout ce que j'ai là est illustré par ce qui se vit à Lisieux, par tous ces gens qui viennent, par tous ces gens qui racontent pas tout sur les places publiques, mais qui parlent des fois ou qui témoignent. Et pour ça, je trouve que c'est très bien, dans les annales, on remette ce que disent les gens sur ce qui leur arrive, sur ce qu'ils vivent. Thérèse est la patronne des condamnés à mort, par exemple. Je veux dire en ce sens que, depuis Franzini, il y en a eu bien d'autres qui se sont confiés à Thérèse. Je pense à Jacques Fesch, ce garçon de 25 ans qui avait tué un agent de police dans le métro, qui a été guillotiné le 1er octobre 55 en la fête de Thérèse, et qui s'est converti en prison, et qui a écrit des lettres absolument extraordinaires. Thérèse est la patronne des dépressifs, des paumés, des innombrables gens qui ont des problèmes affectifs et des problèmes intérieurs. Je crois qu'on en est à peu près tous, en gros, plus ou moins. Parce que Thérèse a vécu de l'intérieur de très grandes souffrances et qu'elle a connu, on peut dire, des moments très, 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 très bas. Thérèse est aussi la patronne de ceux qui luttent dans la nuit, ceux qui connaissent la nuit de la foi, qui persévèrent dans un certain brouillard en ce monde où avoir la foi, c'est pas tellement évident. Bon, enfin, j'en passe. Mais voyez, je pense, cette année, on dit, c'est l'année des handicapés. Bon. Mais moi, je me demande si c'est pas tout le temps l'année des handicapés. Parce que nous sommes tous des handicapés. Nous sommes tous des handicapés. Je crois que depuis le péché originel, nous sommes tous des handicapés. C'est-à-dire que tous, nous avons besoin que notre cœur soit guéri de toutes ces blessures et que le Seigneur nous libère. Et encore une fois, c'est ce qu'a vécu Thérèse. Alors Thérèse, c'est aussi une présence. Ça, c'est très frappant, tout le monde dit ça, je ne sais pas comment, mais les gens, enfin, quand on parle, Thérèse est présente. Parce que Thérèse, elle est moins étudiée qu'à prier. Enfin, nous tourner vers Jésus par Thérèse. Elle tient parfaitement ses promesses. Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Et nous pouvons le vérifier. Hein, sûrement, si vous faisiez témoigner ce soir des gens parmi vous, ils pourraient le dire. En ce sens, se dit Lisieux, est un terre sainte, c'est-à-dire, la terre n'est pas plus sainte ici qu'à Aubervilliers ou à Brest, mais ici est un lieu de grâce, un lieu de pèlerinage, c'est un lieu de grâce, parce que on s'y retrouve pour rencontrer le Seigneur dans sa miséricorde. On peut le rencontrer ailleurs et partout, bien sûr, mais enfin, c'est pas pour rien qu'on peut venir vérifier aussi que tout ce qu'on sait de la vie de Thérèse, c'est pas du mythe. C'est pas du mythe. Je me dis des fois, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais si tout disparaissait, s'il n'y avait plus d'évangile, s'il n'y avait plus d'église, bon, si on peut faire cette imagination, ben moi, il me resterait au moins que je dirais, Thérèse de Lisieux, elle a existé. Les Buissonnets, Carmel, tout ça, je l'ai vu, je l'ai touché. Et son histoire se réalise et continue à se réaliser. Et les exemples de cela, alors ils sont nombreux, nombreux. Je ne prends qu'un petit papier que j'ai reçu il y a quelques jours, tout à fait par hasard, c'est un bulletin liaison des carmes à travers le monde. Voici ce que j'ai lu dans les nouvelles brèves. L'histoire d'une âme a été traduite en arabe pour la première fois par les pères carmes de Chebroi, le Caire, en 1964. Ce livre est en train de servir de fondement à la vie et au renouveau religieux d'un monastère copte, Wadi Natroun. Ce monastère a été fondé par Mata El Maskin, il y a environ 25 ans. Mata El Maskin était un étudiant égyptien en pharmacie, de religion copte orthodoxe. Dans sa jeunesse, il se sentit appelé à la vocation religieuse. Il se retira dans un désert de la Haute-Égypte et commença un genre de vie érémitique à l'exemple de Saint Macaire, un des pères du monachisme copte. L'œuvre de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus émut profondément Mata El Maskin en 1964 et devint comme une règle fondamentale pour lui et pour ses moines. Elle sert maintenant de base de renouveau au Wadi Natroun. Des faits comme ça, on pourrait les ajouter indéfiniment. Vous savez qu'en Russie circulent sous le manteau des icônes de Thérèse, parmi d'autres icônes, les œuvres de Thérèse, et que nos frères croyants en Russie apprécient énormément tous les écrits spirituels dont ils sont privés. Alors en définitive, je m'arrête là, Thérèse ne fait pas d'autre chose, car il ne faut pas s'arrêter à Thérèse, nous pouvons l'aimer beaucoup, mais Thérèse, comme elle disait, je ne suis rien moi. Moi, je ne suis que la plus petite pour que vous vous tourniez vers le Seigneur. Thérèse nous montre Jésus. Thérèse est le signe que Jésus est à l'œuvre. Et c'est vers le Christ que Thérèse nous entraîne. Et pour terminer, je vous lirai simplement un poème de Thérèse, un cantique, qui montre, parmi d'autres, parce que le sujet principal des cantiques de Thérèse, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Et qui montre cet amour. Thérèse a été une femme saisie par Dieu, une jeune femme saisie par Dieu, une jeune fille, comme tous les saints, bien sûr, mais qui a eu cette vocation vraiment particulière, que ce qu'elle a vécu dans cette vie totalement cachée, dont personne n'a pu se rendre compte, était un signe pour le monde. Et que justement, ce qu'elle a pu dire se vérifie, c'est que Dieu a choisi le plus petit, la plus petite, la plus inconnue, presque la plus insignifiante. Et nous savons que c'est la manière de faire de Dieu qui a choisi Marie, par exemple, Marie, pour en faire la mère de Dieu, dans un coin perdu de Palestine au début de notre ère. C'est toujours ainsi que le Seigneur travaille. Alors voici un poème de Thérèse, dont le titre original était « Mon seul amour ». Il est du 15 août 96. Elle s'est offerte à l'amour miséricordieux un an avant. C'est juste avant qu'elle écrive son grand texte du manuscrit B, « Ma vocation, c'est l'amour », juste avant. Mon cœur ardent veut se donner sans cesse. Il a besoin de prouver sa tendresse. Ah, qui pourra comprendre mon amour? Quel cœur voudra me payer de retour? Mais ce retour en vain, je le réclame. Jésus, toi seul, peux contenter mon âme. Rien ne saurait me charmer ici-bas. Le vrai bonheur ne s'y rencontre pas. Ma seule paix, mon seul bonheur, mon seul amour, c'est toi, Seigneur. Ô toi qui suis créé le cœur des mères, je trouve en toi le plus tendre des pères. Mon seul amour, Jésus, Verbe éternel, pour moi, ton cœur est plus que maternel. À chaque instant, tu me suis, tu me gardes, quand je t'appelle. À jamais, tu ne tardes. Et si parfois tu sembles te cacher, c'est toi qui viens m'aider à te chercher. N'oublions pas qu'elle, quand elle écrit ça, elle est dans la nuit de la foi. C'est à toi seul, Jésus, que je m'attache. C'est en tes bras que j'accours et me cache. Je veux t'aimer comme un petit enfant. Je veux lutter comme un guerrier vaillant. Ça, ce contraste, c'est bien Thérèse. Thérèse est à la fois une enfant et un guerrier. Comme un enfant plein de délicatesse, je veux, Seigneur, te combler de caresses. Et dans le champ de mon apostolat, comme un guerrier, je m'élance au combat. Ton cœur qui garde et qui rend l'innocence ne saurait me tromper, ne saurait pas tromper ma confiance. En toi, Seigneur, repose mon espoir. Après l'exil, au ciel, j'irai te voir. Lorsqu'en mon cœur s'élève la tempête, vers toi, Jésus, je relève la tête. En ton regard miséricordieux, je lis, « Enfant, pour toi, j'ai fait les cieux. » Je le sais bien, mes soupirs et mes larmes sont devant toi, tout rayonnant de charme. Les séraphins du ciel forment ta cour, et cependant, tu mendis mon amour. Tu veux mon cœur, Jésus, je te le donne. Tous mes désirs, je te les abandonne. Et ceux que j'aime, ô mon époux, mon roi, je ne veux plus les aimer que pour toi.
Le vrai visage de Thérèse de Lisieux, vous venez de suivre une conférence de Mgr Guy Gaucher, qui a été évêque auxiliaire de Bayeux-Lisieux et qui est décédé en 2014.